RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Alors évidemment, tous les sujets nous intéressent. Tous ceux que vous souhaitez commenter dès maintenant, c'est votre émission et vous en prenez les commandes. C'est tout simple. Vous avez les réseaux sociaux, le compte Twitter RTL Midi, la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la parole et le 3210, standard accessible depuis maintenant plusieurs minutes, et vous prolongez vos appels. Vous pourrez parler bien évidemment du travail illégal avec les mesures dévoilées ce matin. Vous pouvez évoquer les maths et les petits français. Là aussi, on veut essayer d'améliorer les choses et ce ne sera pas difficile. Est-ce que justement il faudrait imposer dès le CP le fait que nos petits puissent maîtriser les quatre opérations? Est-ce que ça peut faire avancer et progresser? 3210, vos appels. On va parler bien sûr rugby parce qu'on a eu une bagarre hier soir. On n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, mais on a encore perdu au rugby dans le tournoi Destination. Et en plus, nos joueurs se sont bagarrés. Ils n'ont pas pu décoller et quitter l'Écosse ce matin. Ça n'est pas rien. Et puis bien sûr, c'est Laura Smet et sa décision concernant l'héritage qui alimente les débats.
Oui, Laura Smet qui veut contester le testament de son père Johnny Hallyday. Ça fait déjà beaucoup réagir sur notre page Facebook RTL Midi, Laurent Tessier.
Ouais, ça y est, le feuilleton commence, enthousiasme Gilles. Les feux de l'amour version Hallyday, c'est maintenant, écrit Greg. Je l'avais prédit, crie Nadine, que la famille se déchirerait dans les 3 mois. C'est lamentable ce qui est en train de se passer. On est parti pour des années de procédure. Mais oui, c'était évident, rajoute Nicole. Quand il y a de l'argent, les familles se déchirent obligatoirement, c'est fou. Et Yolande prend déjà les devants. Je soutiens entièrement Laura et David. Je ne comprends pas comment Johnny a pu prendre cette décision de son plein gré. Lui qui a tant souffert de son enfance sans son père, il aurait recopié l'attitude, c'est impossible. Même avis pour Aotep, Laura et David ont raison. Quant à Laetitia, si elle est intelligente, elle devrait pallier l'absence d'héritage par une donation aux deux aînés.
Voilà, la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole, vos commentaires, vos avis, vous êtes les bienvenus. On vous écoute dès maintenant, 3210, 3210, on va en Seine-Saint-Denis d'abord pour ouvrir le débat et la parole avec Christine qui nous rejoint. Bonjour Christine.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir.
Bienvenue. Bonjour Christine.
Merci. Ben, écoutez, moi, je suis choquée parce que il y a une auditrice qui a laissé un message en disant que Johnny ne pouvait pas avoir fait ça. Il a été abandonné par ses parents, il ne peut pas faire ça à ses enfants, c'est pas possible. Mais moi, j'ai la sensation d'une espèce de toile d'araignée qui s'est constituée auprès de Johnny et qui a écarté pas mal de personnes parce que, quand, si j'ai bien compris, la lettre de Laura, comme vous l'avez cité, qui m'a blessée parce que ça m'a touchée aussi personnellement.
Pardon, je refais juste une parenthèse parce qu'il y avait cette phrase qui était vraiment très intéressante et vous l'avez bien... Vous en êtes rendu compte, elle écrit « Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ?»
Oui, il y a cette phrase-là, et puis il y a la phrase aussi où elle n'avait pas la liberté, que c'était un peu caché de voir son propre père. Oui. Et c'est cette phrase-là également qui m'a touchée,
absolument.
Parce que quand ça se passe, ce genre de choses, je parle pour moi, mais ça a fait écho. C'est pas le sentiment de Johnny de ne pas faire hériter sa fille. Ça vient pas de lui. Alors, il était probablement affaibli, il était malade, mais je pense pas du tout que de son plein gré, de sa propre volonté, sans pression, signé ce testament.
Est-ce que vous
c'est
êtes
pas possible.
Surprise?
Je ne veux pas incriminer, je vais dire que je suis pas surprise pour la simple raison qu'il y a tout un faisceau de présomptions, on va dire, qui font que ce qui se passe, c'est pas tellement surprenant. Johnny, on l'a envoyé à Saint-Barth. On vend la villa de Marne-la-Coquette sous prétexte qu'il y a des mauvais souvenirs. Bon, peut-être là, il est décédé, là, il a été malade. Ok, difficile à comprendre, mais bon, voilà.
Ça, c'est une décision personnelle qui revient à Laetitia.
Après, il y a Saint-Barth. L'enterrement à Saint-Barth, ça ne s'est pas passé d'enlever Johnny à son public.
Vous, en tant que fan, vous êtes senti un peu confisqué?
Oui, mais j'avais plus que confisqué, oui, parce que c'est pas, si vous voulez, il y a un moment donné, il y a des choses qui sont compréhensibles et des choses qui sont incompréhensibles. Et là, on est dans quelque chose qui est incompréhensible. Alors c'est sûr que l'amour de Johnny fait qu'à un moment donné, on peut perdre un petit peu de lucidité, mais il y a de la logique, si vous voulez, dans les attitudes des personnes. Je dirais 50 ans, il a fait des concerts en France, il a donné sa vie au public, on l'emmène à Saint-Barth et maintenant Saint-Barth, on apprend qu'il va épouer. Donc Pourquoi, à un moment donné, comment retirer de son public, le père, là, dans sa fonction de père, qui est retiré aussi auprès de deux enfants, et ça, c'est pas compréhensible, et ça, c'est pas Johnny, et voilà.
On vous sent à la fois ému, choqué et en colère, Christine. Restez là, parce qu'il y a évidemment beaucoup de monde qui veut intervenir. Je vous lis simplement un message du producteur Dominique Besnéard, qui est le parrain de Laura Smet, et qui connaît évidemment ce monde de la musique, c'est sur son profil Facebook. Je viens d'apprendre les dispositions du testament de Johnny. C'est incroyable que ses enfants, David et Laura, soient déshérités en faveur de Laetitia. Ça sent l'usurpation d'héritage. C'est trop gros, ça va se retourner contre elle. Dans la vie, elle boomerang. Voilà, il ne fait pas de cadeau, évidemment, Dominique Besnéard. Christine, restez là. On a Catherine qui nous rejoint des Côtes d'Armor au 3210. Bonjour, Catherine.
Et bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Choquée aussi, Catherine ?
Oh oui, plus que ça. Et puis peinée. Peinée parce que franchement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. On a entendu la lettre de Laura qui est très touchante, mais qui semble très sincère. Et puis, on le comprend très, très bien. Et ça ne ressemble pas du tout à Johnny Hallyday. C'est quelqu'un qui nous a accompagnés pendant, ou qu'on a accompagné pendant 40 ans, qui faisait partie d'une certaine façon de nos vies et qu'on admirait pour beaucoup de raisons. Et puis, tout d'un coup, rien pour ses premiers enfants, tout pour sa femme, alors qu'il y a une si grosse fortune en jeu. On se dit que même si elle n'avait eu que la maison de Marne, la Coquelle, qui est en vente à 15 ou 20 millions d'euros, elle avait de quoi vivre dans le luxe. Et oui, tout lui est donné. C'est surtout la peine, je pense, pour Laura et son frère. Que c'est si rare quand même qu'un père déshérite totalement ses enfants.
Alors après, c'est sous loi californienne, hein. On est d'accord, c'est là-dessus d'ailleurs qu'ils vont jouer en justice, puisque la loi californienne n'est pas du tout la même qu'en France. Donc il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là.
Oui, quelque chose à faire, mais la peine sera toujours là, je pense. Hein.
Ah bah, bien sûr. C'est quand même une famille qui se déchire sur la place publique, 2 mois après des obsèques quasi nationales. C'est assez terrible.
Ça ne vient pas du tout apparemment de Laura et de son frère. Hein, parce que si effectivement Laetitia hérite de tout, c'est tellement injuste et tellement anormal, on est choqués. Parce que même dans notre propre famille, avec des petites sommes, on serait choqués. Et là, on se dit, une telle fortune, il y avait moyen de la partager et que tout le monde soit heureux. Mais oui, c'est... Et puis, regardez, il y a une chanson qui s'appelle Laura, qui est très belle. Même les droits de cette chanson vont revenir à Laetitia. Mais c'est fou. C'est fou. On croit rêver. Ou cauchemarder, hein, plutôt. Excusez-moi, hein, parce que...
On sent que vous êtes très émue.
Je suis choquée. Et j'ai de la peine pour ses enfants, franchement. Et je crois que Johnny Hallyday, c'est pas possible qu'il ait... J'ai pas le droit de dire qu'il ne l'a pas fait, hein, puisque... Mais... Ça ne lui ressemblait pas à quelqu'un qu'on connaissait comme humain et généreux.
Ça vous surprend. Merci Catherine d'avoir témoigné. Merci aussi à Christine. On fait une pause dans un instant. On a Pascal et Martine à suivre.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Alors, vous êtes chez vous, évidemment. Vous continuez à réagir au 3210 dès maintenant et sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter RTL Midi, sur Laura Smet, donc, qui veut contester le testament de son père, Johnny Hallyday, et le bras de fer qui va s'engager au sein même de la famille et du clan. Vos appels au 3210. On a Martine qui est en ligne avec nous depuis l'Oise. Bonjour, Martine.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Comment vous réagissez-vous ?
Eh bien, je réagis comme les deux autres auditrices, je désapprouve complètement cette décision. Je suis pour Laura et David et j'ai suivi Johnny toute sa vie. J'habite à 2 km de Loconville, donc j'ai vraiment suivi et je suis outrée de cette décision. Je pense que déjà la chanson Laura, l'argent devrait revenir à Laura et puis toute sa vie, il a eu ses 2 enfants. Je suis complètement outrée, je désapprouve cette décision. On verra la suite.
Vous êtes surprise ?
Oui. Pas trop surprise, parce que je revois beaucoup les nouvelles sur Internet. Je vois la vie de Laetitia pratiquement tous les jours sur Internet. Et je pensais qu'il y allait avoir une bagarre financière.
On peut pas imaginer, Martine, que même si elle touche tout, elle puisse pas ensuite redistribuer.
Oui, il y a énormément d'argent. Je pense que un partage, même si c'est 40-60 ou autre chose, aurait pu se faire quand même. Il a ses David et Laura qui sont vraiment ses enfants. Je dis bien ses enfants, et on peut partager quand même dans la vie. Il y a bien assez d'argent pour que tout le monde puisse vivre tranquillement.
Je rappelle que Johnny Hallyday, c'est 50 albums,
oui,
qu'il a vendu 100 millions de disques et qu'on attend en principe un album posthume. Donc effectivement.
Oui, donc cet argent va aller aussi à Laetitia et ses enfants.
En principe,
bien sûr. Donc j'espère que la loi française pourra se manifester, et puisqu'on n'a pas le droit de déshériter ses propres enfants, Donc j'espère que la loi française pourra contrer les lois américaines.
Merci Martine de votre coup de fil au
3210. Je vous en prie.
Bien sûr qu'on peut vous écouter encore hein, sur la situation par rapport à la famille de Johnny. On a ouvert l'émission avec ceci et vous pouvez commenter encore et toujours au 3210. On attend vos appels. On va simplement changer de sujet parce que vous nous appelez encore et toujours sur d'autres sujets qui vous intéressent. Celui qu'on a mis en avant par exemple dans RTL Midi, ce sont ces fameuses 21 mesures pour faire progresser les petits en mathématiques. Nous sommes les cancres en la matière en Europe. L'une des mesures proposées donc par des spécialistes des maths, c'est tout simplement que dès le CP, les petits puissent maîtriser correctement les fameuses quatre opérations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien évidemment. Est-ce que ça peut faire progresser ou pas? On a Isabelle Christelle qui nous passe un coup de fil depuis Gap.
Bonjour Isabelle.
Bonjour. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai 60 ans, je suis retraitée. J'ai travaillé donc avec les enfants toute ma vie et j'ai des enfants moi-même.
Vous étiez institutrice?
Non, j'étais auxiliaire de puériculture.
Ouais, d'accord.
Et donc, nous, quand on était à l'école, que ce soit mon frère, ma sœur ou moi, on a toujours travaillé en base de départ avec des petits bâtons de couleur, des petites billes de couleur, où on nous enlevait, on nous en rajoutait, est-ce que ça fait plus, est-ce que ça fait moins. On a toujours été baignés dedans, même en dernière année de maternelle. Mmh. C'est-à-dire qu'on était sensibilisés dès la base de départ.
Oui, et c'est-à-dire que, en fait, vous touchiez.
Absolument. Ensuite, on avait des bouliers.
Oui.
Et les bouliers, moi, j'en ai offert à mes petits-enfants. Parce que ces petits bouliers, eh ben, on enlève, on rajoute, on joue avec les couleurs, on peut faire la différence. Et les enfants comprennent très vite si on en rajoute si on en enlève. Mmh. Maintenant, moi, ce que je faisais, c'est aussi un jeu avec mes enfants, avec des bonbons. Les bonbons, si j'en ajoute un ou si j'en enlève un, eh ben, le gamin qui va comprendre, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ben non, attends, moi j'en ai un en moins, donc il va voir tout de suite, il va comprendre qu'on en enlève. Si on en rajoute, il va vite comprendre.
C'est-à-dire donc, apprendre par le jeu, Isabelle. Apprendre par le jeu, en fait, hein, c'est ça?
Apprendre par le jeu. Ensuite, bon, à travers la part de gâteau, c'est la peu plus grande, c'est la peu plus petite. Ça aussi. Maintenant, nous, ce qu'on a appris, ce sont les tables d'addition, de multiplication, de division. C'est du par cœur, évidemment, mais c'est quelque chose que l'on retient toute notre vie.
Oui, c'est vrai.
Hein
6 x 8,
je suis capable
Stéphane.
Actuellement 6 x 8, de faire
Stéphane.
Toutes 48. Mes opérations sans calculatrice. Maintenant, ce qu'il faut faire...
Mais il
ne
faut
aussi,
pas les bannir pour
jeunes,
autant, Isabelle, les calculatrices. Ça a un intérêt aussi après, quand on fait des maths un peu
grands,
plus abstraites.
Alors, pour les maths, ne mélangeons pas le calcul et les maths.
Oui.
Voilà. Le calcul, ce sont les 9 chiffres. Les maths, ce sont tous ces gros trucs où moi, je ne comprends rien du tout dedans. Je suis nulle. Mais en calcul, je dis bien en calcul, je suis bonne. Mmh. Et nous, ce que l'on faisait à l'école, avec une ardoise, c'était calcul mental.
Oui.
On avait tant, je ne sais plus combien, on avait tant pour compter. Et on levait l'ardoise.
Mmh.
C'était vraiment excellent. Il fallait être très réactif. L'instit,
mais ils en font, Isabelle, ils en font encore, hein, les enfants du calcul mental avec des ardoises. Ça existe encore à l'école primaire. Hein. Ça n'a pas disparu.
Mais,
ils voudraient le renforcer
savez, quand
aujourd'hui.
On a le portable, quand on a le portable, quand on a l'ordinateur, quand on a la calculatrice, vous croyez qu'ils ont encore envie de calculer de tête, les jeunes?
Oui, mais il faut les contraindre à calculer de tête dès la primaire, avant le portable.
bien avant, et même après, il faut continuer. Il faut continuer à faire ces exercices, à les entraîner. Oui. Et surtout, à part les maths, mais en calcul, c'est dire vraiment, voilà, là, il n'y a rien du tout. Là, vous faites vraiment travailler votre tête.
Ouais, merci Isabelle du coup de fil et des explications, en tous les cas, de ce que vous revendiquez et mettez en avant, c'est-à-dire notamment apprendre par le jeu. On a d'autres appels pour faire des mathématiques et du 2 plus 2 dans un instant. On a Christine qui est déjà en ligne connectée et puis Jacques aussi qui veut s'exprimer. 3, 2, 1, 0, vos prises de parole, vos messages attendus. On va les lire, bien sûr, avec Laurent Tessier sur nos réseaux sociaux, le compte Twitter RTL Midi, la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. 13h20, à tout de suite.
Stéphane Carpentier,
Christelle Rebière,
les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Faut-il démarrer l'apprentissage des quatre opérations dès le CP pour être un petit peu moins nul en maths? C'est la question du jour sur RTL.fr. Vous répondez oui à 80%. Vous n'êtes que 13% à penser le contraire. On est ravis d'accueillir Christine, qui est enseignante en maternelle à Metz. Bonjour Christine.
Oui, bonjour. Excusez-moi si j'ai pas beaucoup de voix. J'ai une laryngite. Mais bon,
Moi, j'en sors. Alors,
je me défends.
Je vois bien de quoi vous parlez. Donc, vous enseignez à des élèves qui ont quel âge ?
4 ans.
4 ans. Et qu'est-ce que vous leur enseignez déjà ?
Et je fais des jeux. Ben, je fais des 4 opérations. Et je fais des tas de résolutions de problèmes et de réflexions. Par exemple, vous avez 3 images, une pomme, une banane, une pêche. Mmh. Et j'ai une petite phrase qui dit « Le fruit que Nicolas a mangé n'est pas rond ». Ben, il va falloir qu'il trouve, ou on n'a pas de noyau, on n'a pas de choses comme ça, etc. Ou on n'a pas, je sais pas. Bon. Ou alors vous avez une image où il y a une barrière, derrière il y a des animaux cachés, vous voyez que les pattes. Combien il y a d'animaux Et ben, suivant si c'est des canards ou des chevaux ou quoi, il faut qu'ils réfléchissent. Ou cet après-midi, tiens, je vais faire le jeu des tours. Je vais empiler des cubes, ils vont faire une tour de cubes, et ils vont cacher cette tour dans un tube. Et ils vont devoir refaire à côté la tour de la même taille, de la même hauteur. Alors les premiers temps, bien sûr, ils vont se tremper parce qu'ils vont pas faire attention, ils vont pas compter. Et après, ils vont s'apercevoir, ben mince, pour réussir, il faut que je compte. Il faut que je sache combien j'en ai mis dans la première tour que je cache dans mon tube pour refaire exactement la même à côté. Vous voyez, on fait plein de jeux comme ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure au téléphone. Moi, je me bats, j'ai 37 ans de métier, j'ai 58 ans. Le problème, c'est comment voulez-vous faire tout ça quand vous avez 28, 30, 32 enfants dans une classe. On ne peut pas. Et tant que le gouvernement n'aura pas compris qu'il faut baisser les effectifs pour avoir des résultats dans 20 ans, parce qu'il faut investir sur 20 ans, on n'y arrivera pas.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il voudrait mettre en place ce système d'apprentissage des 4 opérations dès le CP, dans les classes de CP dédoublées là, qui auront démarré cette année.
Oui, il faut dédoubler. Moi, calcul mental, j'ai une petite boîte là, elle est devant moi avec des petits cailloux rouges. Ils adorent les enfants parce qu'ils sont rouges, mes cailloux. Je les fais tomber dans la boîte, donc ça fait du bruit. Ils doivent compter à chaque fois qu'il y a un caillou qui tombe et à la fin me dire combien j'en ai fait tomber. Je prends ces cailloux après, ils savent, je sais pas, il y en a 8, je leur montre. J'en enlève un, combien il m'en reste ? J'en enlève 2, combien il en reste ? Ça marche, ça marche. Dès qu'on fait des jeux, ça marche.
Oui, en fait, c'est quelque chose d'intuitif.
Voilà. Mais ça marche par petits groupes. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais des 23 autres enfants à côté, quoi. J'ai du bruit, c'est insupportable de travailler dans ces conditions-là. Et nous, on se bat, toutes les enseignants, toutes les collègues sont d'accord avec moi. On est d'accord, il faut faire des jeux, il faut manipuler, il n'y a aucun problème. Mais dans de bonnes conditions.
Christine, vous êtes enseignante. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ceux qui prétendent aujourd'hui que nos enseignants, nos professeurs, nos instituts, ils ne sont pas très branchés mathématiques et qu'il faudrait les former mieux ?
Je leur dis que non, moi, ça, le peu que je vois moi, autour de moi, parce que bon, j'ai pas mal voyagé quand même, pas mal changé d'école, même de pays, je peux vous dire qu'on s'investit quand même beaucoup et qu'on essaye de faire avec nos propres moyens. Vous voyez là tout le petit matériel que je vous dis, mais c'est moi qui l'invente. Je récupère des tubes, j'achète des cubes, je vais chercher des cailloux que je peins pour faire joli. Je suis toujours en train de rechercher des idées.
Vous
voyez, je m'investis, je cherche et je peux vous dire que beaucoup de collègues sont comme moi.
Christine, restez là, je voudrais qu'on écoute Jacques qui nous rejoint depuis l'Essonne. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Je vous appelle parce que je pense, et ça a été mon expérience personnelle, que le fait d'avoir un enseignement qui est dispensé par des personnes qui sont plus ou moins à l'aise, a une réaction, a une action sur les élèves. Et moi, j'ai été pendant longtemps un mauvais en maths, et jusqu'au jour où j'ai eu 2 profs qui étaient absolument... extraordinaire et qui m'ont transformé de mule en bon. Donc voilà. Et ce que je dis, c'est qu'il y a quand même un problème à la fois, si je peux dire, de formation des enseignants et de qualité de l'enseignement. C'est-à-dire que je prends l'exemple du cheval, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas à l'aise sur un cheval n'apprendra pas à quelqu'un d'autre à bien faire du cheval. Et aujourd'hui, on sait très bien. Écoutez, c'est un fait acquis que beaucoup d'enseignants sont plutôt littéraires et globalement, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, ils ne sont pas très à l'aise avec le calcul et les maths et il est évident qu'il n'est pas facile à ce moment-là de mettre les élèves à l'aise, nonobstant les problèmes de classe.
Absolument. Et je précise qu'il y a 5 fois moins d'heures de formation en maths aujourd'hui pour les instituteurs qu'à Singapour.
Voilà, Jacques, ça c'est votre regard et votre expérience, votre vécu. Justement, on va demander à Christine, qui est enseignante en la matière et qui adore enseigner notamment les mathématiques aux plus jeunes, ce qu'elle en pense. C'est dans un instant, vous restez là tous les deux. 3, 2, 1, 0, vos sentiments sur toute l'actualité. C'est 32-10. On vous accueille avec plaisir. À tout de suite.
Stéphane Carpentier,
Christelle Rebière,
les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Faut-il démarrer l'apprentissage des quatre opérations dès le CP avant de retrouver Jacques et Christine qui ont des choses à se dire? Beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole, Laurent Tessier.
Oui, Christelle, cet apprentissage a déjà eu lieu pour la fille de Céline. Elle a démarré en CP avec l'addition et la soustraction en début d'année. Les deux autres en mai et juin. Cela dépend des écoles et des professeurs. Je vous rejoins, lui répond Isabelle. Je pensais même que c'était déjà le cas. Mes enfants ont tout démarré au CP. Béatrice est professeure des écoles depuis plus de 30 ans. Je suis favorable à cet apprentissage. On n'apprendrait pas toutes les techniques, évidemment, de ces opérations, mais dans un premier temps, leur sens sous forme de petits jeux. C'est possible pour des élèves de 6-7 ans, mais c'est vrai que comprendre la division est un peu plus compliqué à cet âge. Mais où sont justement nos petits bâtonnets jaunes, rouges et verts, ça vous parle Christelle, qui servaient à apprendre à compter, désespère Edwige. Il faut donc former des instits pour leur apprendre à faire réciter les tables de multiplication. Pauvre éducation nationale, qui ne se souvient pas des tables de multiplication chantées, demande aussi Matt Lorraine. Et allons plus loin, lance Catherine, l'éducation nationale est à la ramasse sur tous les domaines, pas que les mathématiques, c'est tout le système éducatif du CP à la terminale qu'il faut revoir.
Ah, allez, de l'ambition. Hein.
Absolument. Vos messages sur les réseaux sociaux et notamment le compte Twitter RTL Midi. On écoutait Jacques depuis l'Essonne il y a quelques instants nous dire que les profs ont un vrai rôle à jouer. Christine, vous avez des choses à dire ou à répondre? Vous êtes enseignante
moi,
à Metz.
Je ne suis pas forcément de formation mathématique, mais j'aime bien faire les jeux qu'on fait. Mm-hmm. Et je peux vous dire qu'on s'y applique toutes. Quoi. Toutes mes collègues sont pareilles. Mais encore une fois, il faut moins d'enfants dans une classe. Mm-hmm. Et ça,
pour vous, c'est
pour
surtout un problème d'effectif avant d'être un problème de formation.
Voilà. Transmettez-le à notre ministre, s'il vous plaît, parce que moi, je n'arrive pas à me faire entendre.
C'est fait. Au moins, vous l'aurez dit sur RTL.
Voilà. Du coup, je vais aller faire mes mathématiques, là, vous voyez, avec mes petits bouts de chou.
Bon, allez, voilà.
On vous salue. Merci beaucoup d'être intervenue. Françoise est avec nous aussi depuis le Blanc-Ménil. Bonjour, Françoise.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous avez été enseignante pendant 42 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bon. Mais moi, j'ai pas fait les CP ou les choses comme ça, mais peu importe. Je pense que tout ce qu'a dit Christine est juste, etc. Allô?
Nous vous écoutons.
Il faut manipuler, il faut faire des choses comme ça et que les enfants surtout aient la notion d'ordre de grandeur, parce que quand on aborde les problèmes un peu plus complexes au CM1 ou au CM2, on s'aperçoit que c'est souvent ce qui fait défaut. Mmh. Et au collège également, les professeurs le disent. Donc, ce qui va se passer, c'est que, comme d'habitude, l'éducation nationale va donner des instructions très vagues, très générales. Il faut faire connaissance avec les quatre opérations dès le CP, on est bien d'accord. Les éditeurs vont se frotter les mains, ils sont déjà en train de préparer les manuels avec la réforme et tout ce qu'il y a de plus formidable dans la méthode. Mais chacun va interpréter ça à sa façon. Or, il est certain que la division, par exemple, au cours préparatoire, se comporte. Peut aborder, c'est le sens de la division. Ce que disait Christine, des pattes d'animaux, si c'est des canards ou si c'est des chiens, ils ont quatre pattes ou ils ont deux pattes, faut diviser par deux ou par diviser par quatre, mais on va pas poser de division. Mmh. Mais par contre, vous allez avoir des classes où les enseignants vont faire répéter la litanie, je pose machin, je retiens un truc, je le mets là, je le descends, sans que les enfants comprennent. Donc ce qu'il faut, c'est que les instructions officielles, comment dire, s'accompagne de fiches très précises
sur ce que
jusqu'où on peut aller, voilà, jusqu'où on peut aller. Parce que si moi personnellement j'ai fait on va dire de la formation, c'était un truc un peu informel pour des personnes déjà d'un certain âge, retraitées, qui aidaient des enfants dans des structures d'aide aux devoirs. Et je réexpliquais comment on posait la division. Et il y a une dame qui avait une cinquantaine d'années qui m'a dit « Ah, mais j'avais jamais compris. Moi, je faisais, voilà, et je dis en trente combien de fois tant, et je descends et j'abaisse le truc. » Mais elle m'a dit « Mais j'avais jamais compris pourquoi on faisait comme ça. » Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que, croyant bien faire, hein, les enseignants, comme a dit Christine, beaucoup s'investissent et font tout ce qu'ils peuvent, et pas toujours avec des moyens suffisants, ça on est bien d'accord là-dessus. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que justement les enseignants, croyant bien faire, apprennent aux enfants une litanie, une mécanique comme ça à laquelle ils ne comprennent rien et qu'on prenne plus de temps pour justement montrer le sens des opérations, manipuler les petits bâtons, les petits machins comme ça. Moi, je m'en suis servi même en CM2. Hein, et que réellement, les enfants donnent du sens aux mathématiques et que ça ne leur apparaisse pas comme souvent actuellement, comme une galère purement oui, théorique et qui ne sert souvent. À rien, voilà,
quelque
et qui est abstrait, qui n'a pas de sens, qui ne sert à rien.
Merci Françoise d'avoir pris du temps pour nous pour prolonger ce débat avec nos autres auditeurs au 3210 sur cet enseignement. Ça vous a intéressé évidemment et nous aussi. Alors vous prolongez tout ça sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On va parler sport rugby dans un instant. Je dois d'abord vous préciser qu'on vient de décrocher une médaille d'or olympique aux JO en Corée du Sud. C'est le français Martin Fourcade qui vient de remporter la plus belle des médailles dans l'épreuve de poursuite. Il avait été très déçu hier et échoué seulement 8e du sprint, eh bien, il est donc champion olympique, d'ailleurs pour la deuxième fois en la matière, puisqu'il y a 4 ans, il avait déjà décroché l'or dans cette épreuve de la poursuite. On y reviendra évidemment sur RTL. C'est beaucoup moins bien d'ailleurs pour les rugbyman qui n'en finissent plus de perdre. On a Rosalie qui nous rejoint, auditrice de Bayonne au 32-10. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ce rugby français qui va pas très très bien, puisqu'on perd.
Je suis ravie. Honnêtement, je suis super contente de passer à l'antenne parce que ça fait un moment que je me dis c'est pas possible, un jour je vais y arriver. Je suis ravie pour Noves parce que nos petits Français là, ils ont pas une tête, ils ont une pastèque à la place d'une tête.
Noves qui est le sélectionneur précédent qui a été remercié.
Qui a été écarté comme un malpropre par Monsieur Laporte que je ne peux pas voir. C'est un orgueilleux, un prétentieux, c'est bien fait pour lui. Moi, je voudrais même qu'on perde contre l'Italie.
On a 8 défaites consécutives, c'est pareil, on n'a pas gagné un match depuis un an.
Je m'en fiche.
Mais non, vous n'en fichez pas, au contraire, on sent bien que ça vous énerve, Rosalie.
Moi, je suis très contente parce que M. Laporte, il est tellement malin, tellement intelligent, il est tellement fort que grâce à Brunel, ça y est, on serait en haut de l'affiche. Mais regardez, ne serait-ce que le match d'hier. Mon mari ne me supportait pas parce que je critiquais. Eh bien, c'est la vérité. Déjà, les commentateurs et tout, ils disaient « Waouh, 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 ça y est, on est bon. » Ben tiens, les autres, ils ont été beaucoup plus malins. Vas-y, on va regarder comment vous jouez et qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Allez, c'est parti.
On a bien joué pendant une heure et puis on avait oublié qu'il allait rester 20 minutes, c'est ça.
On a tellement le melon, on est tellement prétentieux et orgueilleux. Regardez ce qui s'est passé là. Ça y est, ils ont été descendus de l'avion parce qu'il y en a 7 ou 8 qui sont...
Il y a eu bagarre, visiblement, à Édimbourg.
Pour ceux qui nous rejoignent, visiblement, il y a eu bagarre hier soir à l'issue du grand banquet d'après-match.
Je ne suis pas étonnée.
Avec des supporters écossais, manifestement, en plus.
Ce n'est pas grave, mais ils n'ont qu'à bien se tenir. Ils ont, de toute façon, dans notre rugby français, on joue perso. On sait pas. Si vous regardez les autres joueurs, ils font des passes, ils sont magnifiques. Voilà. Moi, je suis enchantée. Et moi, je voudrais une chose, si on pouvait m'entendre. Adieu Laporte, bye bye, qu'on le vire, qu'on le jette, qu'il vaut rien. Voilà.
On a bien compris que vous adoriez.
Merci à Rosalie.
Président de la Fédération française de rugby. Merci Rosalie.
Merci, au revoir.
Un coup de fil depuis Bayonne qui connaît bien évidemment le monde de l'Ovalie et le rugby en particulier. 32-10 vos appels. On va revenir au sujet qui vous intéressait dès le début de l'émission tout à l'heure à 13h05. C'est la situation de la famille Johnny Hallyday. Famille Hallyday, puisqu'on va se déchirer en termes d'héritage. Laura Smet va contester en justice les dispositions prises donc pour le testament de Johnny Hallyday décédé il y a 2 mois maintenant. Vos sentiments, choqués, déçus, pas surpris, c'est 32-10. On vous redonne la parole sur ce sujet juste après ça. À tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Laura Smet veut contester le testament de son père Johnny Hallyday. La famille se déchire 2 mois après le décès et l'enterrement du chanteur. Ça vous fait évidemment beaucoup réagir au 32-10. On retrouve Pierre qui nous appelle de Beauvais. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre. Est-ce que vous êtes surpris, vous ?
À moitié surpris parce que j'ai souvent pensé qu'après la disparition de Johnny, dans une famille qui a été recomposée, il y aurait des déchirements. Maintenant, il n'est pas sûr que l'héritage soit aussi important d'après ce que l'on a pu lire ici et là. Johnny était un homme, paraît-il, dépensier. Maintenant, je trouve absolument scandaleux que ces enfants, qui sont, je crois, de nationalité française, échappent à cet héritage.
Au nom d'une loi californienne.
Au nom d'une loi californienne, alors que les enfants sont d'origine et de nationalité française. Y aurait-il eu une, une pression sur Johnny à un moment où il était peut-être très très malade. Ceci reste à prouver.
Oui, et ça, ce sont des supputations. Hein.
Voilà, ce sont des supputations. Il faut voir à quel moment a été signé ce testament, rédigé et signé. Est-ce que le corps médical pourrait intervenir dans cette affaire-là? En tout cas, que ce soit Laura ou David, nous leur accordons tout notre soutien, parce que c'est même un peu immoral.
Immoral, vous nous dites, Pierre. Restez là, on a Annick, il y a du monde qui veut s'exprimer, évidemment. Annick, depuis la Seine-et-Marne, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre.
Oui,
dites-nous.
Oui, bonjour, je suis tout à fait surpris, parce que ses propres enfants, je ne pense pas qu'ils soient quand même déshérités, c'est ses vrais enfants. Je me demande ce qui s'est passé par rapport... Déjà, on nous l'a enlevé, Johnny, on nous l'a mis à Saint-Barth. Moi, qui suis très fan de Johnny, j'étais pas d'accord, je ne suis pas encore d'accord, parce que j'aimais depuis plus de 50 ans Johnny. J'ai vu naître son fils, naître Laura, ses propres enfants qui sont déshérités. Pour moi, c'est dur, très très dur. Et je suis contre Laetitia, si c'est elle qui a fait ça, si c'est une loi américaine. Je ne suis pas d'accord.
Non, on ne
déshérite pas.
On entend votre émotion, Annick, en tant que fan. Restez avec nous. Je vous présente Brigitte, qui est en Seine-Maritime. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour. Oui, donc moi je voulais m'exprimer de façon assez neutre. Je ne fais pas spécialement partie des fans de Johnny Hallyday. Je l'aimais bien en tant qu'homme, j'aimais bien certaines de ses chansons, mais bon, voilà. Maintenant, moi je voulais m'exprimer par rapport à l'engouement, à cet engouement des gens qui mettent leur nez dans des affaires qui sont purement familiales et personnelles. Et je ne comprends pas que l'on puisse juger alors une personne qui a pris une décision, hein, qui a fait un testament, et que l'on remette en question ce testament. Mais de quel droit allons-nous mettre notre nez dans ces affaires-là? Maintenant, l'histoire familiale, personne ne la connaît. La lettre de Laetitia, j'en ai entendu parler comme ça tout à l'heure, j'ai entendu quelques mots. Chacun se dit choqué, touché. Moi, personnellement, elle ne m'a pas touchée. J'ai relevé deux mots. Mais que vais-je transmettre à mes enfants si je suis déshéritée?
Oui.
Et c'est ça qui m'a choquée. Parce que
vais-je pouvoir lui transmettre de toi?
Voilà. Mais que peut-on transmettre de ses parents? Il n'y a pas que l'argent. Je veux dire, il y a toute
non,
son
y
histoire.
Non, il n'y a pas que l'argent.
Bien
je veux
sûr,
dire que...
y a...
C'était ses enfants, Laura et David, c'était vraiment son sang. Lui qui est venu de rien... Mais... Lui qui est venu de rien, il comprenait ce que c'était de ne pas avoir d'argent. Je ne comprends pas que ses enfants, ses propres enfants, soient déshérités.
Brigitte.
Oui.
Là, je ne mets
oui.
pas.
Connaît-on l'histoire de cette famille, enfants avec leurs parents? Est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits à un moment? Est-ce que... Enfin, voilà,
oui,
je,
bon,
maintenant,
j'ai eu
tout,
des conflits avec mes
bon.
Enfants. J'ai des enfants, j'en ai eu quatre, madame.
Oui, mais Annick...
Et puis, mais... ça s'est arrangé, mais c'est mes enfants.
Annick, elle a raison. Oui, mais Annick, c'est juste on touche à l'intimité d'une famille. Elle
Pardon.
A raison,
mais moi,
Brigitte.
Moi, ce qui me
Pardon.
Choque, c'est qu'effectivement, cela fasse débat au niveau du pays.
Oui, parce qu'on adorait cette idole qui est...
Mais justement, respectons sa décision. J'entends des gens qui disent aussi « On nous l'a enlevé, il est enterré à Saint-Barth », mais je suppose que c'était sa décision. Il était suffisamment malade pour pouvoir prendre des dispositions et parler de ses désirs. Attendez, excusez-moi. Parler de ses désirs.
Juste Pierre, pour conclure, parce que ça fait un petit moment qu'il voudrait juste dire une phrase. Pierre.
Oui, qui dit que Laura ne vise que qu'un héritage d'argent ou de droits.
Non, ça peut être
d'auteur.
Des affaires personnelles aussi.
Simplement l'image de son père, l'histoire de son père, lorsqu'elle dit dans sa lettre qui est quand même émouvante, Alors, je comprends très bien votre auditrice qui dit que ça ne nous regarde pas, effectivement, mais lorsque c'est un homme public, eh bien, il faut s'attendre à ce genre de choses.
Absolument, ça ne nous regarde pas, mais on va en parler encore et toujours. Merci Pierre d'avoir pris la parole pour nous. Brigitte, Annick, tous ceux qui ont composé aujourd'hui pour commenter l'actualité. Et elle était riche, elle était dense et très animée. Ça se passait au 3210, 3210. On en reparlera dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel à partir de 18h. Pour ceux qui nous rejoignent à 13h48, je vous rappelle simplement la médaille d'or olympique de Martin Fourcade, le français, dans l'épreuve de biathlon. En poursuite, il vient de décrocher la timbale il y a quelques instants. On y revient là aussi à 14h.
Et troisième médaille d'or de sa carrière, il égale Kili quand même. Hein,
ouais, il est très très fort.
Ah ouais. Allez, on fait une pause, on retrouve Laurent Gérard tout de suite.